laisser une fois de plus les paroles de ces chants envahir notre cœur. Laissez le Saint-Esprit manifester la gloire du Christ dans chacun de nous. Préparons-nous à recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps que nous venons de passer, Seigneur, avec toi et devant ta face. Ce temps nous a permis de nous approcher humblement de toi pour, Seigneur, nous prosterner devant ta face et faire monter vers toi notre prière de louange, d'adoration. Merci, ô Dieu, car en nous accordant cette grâce, tu nous permets d'accomplir notre raison d'être sur cette terre. En effet, tu nous as sauvés pour que nous puissions te servir. Et ce service, Seigneur, envers toi atteint son apogée, son paroxysme, son point le plus élevé lorsque nous sommes dans ta présence et que, Seigneur, nous interagissons avec toi au-delà du voile. Merci pour tout. Seigneur, non seulement nous sommes réjouis en ta présence, non seulement nous avons fait monter vers toi nos chants et nos cantiques, mais nous voulons maintenant te demander, Seigneur, à ce que tu nous parles. Fais-nous du bien par ta parole, qu'elle puisse nourrir notre cœur, qu'elle puisse nourrir notre âme et notre esprit, qu'elle apporte équilibre, Seigneur, à notre corps physique, car ta parole reste puissante. Bénis ton serviteur, assiste-le, soutiens-le par ton Saint-Esprit. Merci, Jésus. Parle-nous, fais-nous du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a un philosophe grec qui a dit qu'on ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière. Et c'est vrai. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais le propre d'une rivière, c'est que son eau coule, n'est-ce pas? Contrairement à un lac, contrairement à un étang. Et lorsque tu te plonges dans les eaux d'une rivière la première fois, pendant que tu te laves, eh bien, l'eau de la rivière fait quoi? C'est cool, non? Si tu reviens 12 jours après et tu te plonges dans la même rivière, ça ne sera plus la même eau. Vous voyez? Tout ça pour dire que depuis quelque temps, j'ai à cœur de pouvoir revenir sur certaines pensées, certains passages de la parole de Dieu sur lesquels j'ai eu à mener une réflexion il y a de nombreuses années d'ici, avant que je sois établi, que je prenne la succession du pasteur Jacques Verneau. Donc, vous qui avez déjà entendu cela, sachez que même si c'est la même rivière, c'est une nouvelle eau. Alléluia. Mais aussi, ce qui me motive à revenir là-dessus sur certains thèmes que j'ai déjà eu à explorer, eh bien, c'est que l'Église grandit. L'Église est un corps qui grandit chaque jour. Semaine après semaine, il y a deux nouvelles personnes qui se joignent à nous. Donc, ceux-là, ben, pour eux, ça sera quelque chose de nouveau qui ne pourra qu'être en plus et apporter une plus-value à leur vie spirituelle. Alléluia. Je voudrais donc revenir ce matin sur ce passage d'Exode 14, essayer d'attirer votre attention sur la manifestation de Dieu dans ce contexte de guerre, dans ce contexte de bataille. Revenir sur ce passage, essayer de voir ensemble quelle est l'image de Dieu qui émerge de l'observation et de la méditation de ce passage. Lorsque nous regardons autour et alentour du passage qui va faire l'objet de notre méditation, eh bien, quelle est la vision de Dieu que nous recevons selon le point de vue à partir duquel nous allons comment regarder à la manifestation de ce Dieu-là. Nous sommes donc dans Exode 14, et nous commencerons notre lecture au verset 10. Et mon thème de ce matin est Adonai, le guerrier redoutable. Alléluia. Le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir trois séminaires sur la thématique du combat spirituel. Et durant ces trois séminaires, nous avons appris pas mal de choses. Nous avons reçu pas mal de vérités en rapport avec ce combat-là. Et je voudrais revenir aujourd'hui sur un aspect particulier du Dieu de la Bible. Un aspect particulier, mes amis, de ce Dieu qui un jour nous a rencontrés dans notre misère, dans notre pauvreté, et nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres, de l'obscurité à la lumière. Oui, ce Dieu qui a fait de nous des citoyens de son royaume. Adonai, le guerrier redoutable. Nous sommes donc dans Exode 14, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui, après avoir été délivré de la servitude d'Égypte, se lance dans un voyage vers la terre promise. Et puis voilà, avant d'arriver dans cette terre que le Seigneur avait promise à son peuple, eh bien, un grand obstacle naturel se dresse devant eux, c'est la mer de Jonc ou la mer Rouge. Nous sommes donc dans Exode 14 à partir du verset 10. Nous n'allons pas lire tous les versets qui suivent, ben, nous allons sauter lire l'essentiel. Le Pharaon, nous dit la parole, approchait. Les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent donc à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. » Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » Nous allons verset 21. « Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, eh bien, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Verset 30, « Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit le Seigneur, ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. » Gloire au Seigneur. Il est de date dans l'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'une nation, des dates qui ont marqué l'histoire de ce peuple-là ou de cette nation-là comme au fer chaud. Et à cause de la singularité de cet événement, à cause de son caractère tout particulier, parce que cet événement aura changé le destin du peuple ou de la nation, eh bien, cet événement va être observé dans les années qui suivront. Pensez par exemple à l'indépendance de notre chère République le 30 juin 1960, après plusieurs décennies d'appartenance à la Belgique, le Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. À partir de ce moment-là, eh bien, cette date du 30 juin est observé et à chaque fois, chaque année, toute la République, eh bien, se mobilise pour fêter, pour célébrer cet événement qui reste après tout singulier dans notre histoire. C'est donc un événement majeur qui a marqué, comme au fer chaud, notre histoire. 50 ans plus tard, on se souvient encore, dans un siècle, si le Seigneur ne revient pas bien sûr, eh bien nous nous souviendrons encore un événement majeur. Ça peut être aussi la genèse d'un peuple. Ça peut être aussi une révolution qui conduit à un changement radical. Pensez notamment à la Révolution française de 789 à 799 ou de 799. Eh bien, cette révolution avait mis fin à l'ancien régime et ainsi avait ouvert la porte au nouveau régime, à la République, tout ce que vous savez là-dessus. Donc, il y a comme ça des événements majeurs dans l'histoire de peuple, dans l'histoire des nations, des événements qui sont donc commémorés chaque année parce que ces événements, eh bien, ont contribué au changement du destin, ont permis la genèse d'une nation ou autre. Gloire au Seigneur. De même, mes amis, le passage de la mer Rouge a été un événement majeur dans l'histoire d'Israël. Lorsque vous vous tournez vers la parole de Dieu, lorsque vous lisez l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, eh bien vous vous rendrez tout de suite compte que tous les acteurs du peuple d'Israël, que ce soit les législateurs, que ce soit les rois, les prophètes et d'autres, tous ont parlé de manière répétée et récurrente de cet événement qui a quelque part marqué l'histoire d'Israël à jamais. C'est donc un événement majeur. Mais au-delà de ce caractère, historique, de ce caractère providentiel, de ce caractère miraculeux de cet acte, eh bien, il y a derrière cet événement majeur une révélation du Dieu d'Israël sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Une image de Dieu dont chacun de nous a besoin. Car comme vous le savez, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie qui consiste à aimer les gens de tout notre cœur, comme la Bible nous recommande, une vie qui consiste à louer le Seigneur, à l'adorer, à nous retrouver comme c'est le cas lors de cette célébration. Mais la vie chrétienne est aussi un combat. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques, contre les démons, etc. Donc nous sommes dans une bataille. Et dans cette bataille, comme ce fut le cas pour Israël, poursuivi par Pharaon et toute son armée, dans cette bataille, frères et sœurs, nous avons besoin d'une bonne vision, d'une bonne image du Dieu de la Bible. Autrement, eh bien, nous courons les dangers, rangés de connaître toutes sortes de défaites. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, qui ont une image fausse, une image erronée du Dieu de la Bible, une image qui est aux antipodes de la vraie image telle que nous la trouvons à travers l'Écriture sainte. C'est pourquoi il est important de se tourner vers la parole de Dieu pour laisser le Saint-Esprit nous communiquer la vraie image, la vraie vision de notre Dieu, de notre Seigneur. Autrement, si nous n'avons pas cette bonne image, eh bien nous risquons de développer une image fausse de nous-mêmes. Vous voyez ? Les gens sont ce qu'ils sont, parce que dans la plupart des cas, ils vivent avec une fausse image d'eux-mêmes. Une image qui n'est pas celle que la parole de Dieu aurait pu leur envoyer. Mais nous ne pouvons avoir de bonne image de nous-mêmes que dans la mesure où nous développons une image claire, claire du Dieu de la Bible. La religion essaye de communiquer une certaine image de Dieu. Regardez tous ceux qui ont une certaine religion, même chrétienne. Regardez-les comment, du moins la plupart d'entre eux, comment ils vivent tout en se réclamant de Jésus-Christ. Ils tripotent dans la vie, ils se compromettent, ils adorent les anges, ils courent après toutes sortes de saints dans l'espoir de recevoir une quelconque bénédiction, Alors que la parole de Dieu est claire et catégorique lorsqu'elle déclare qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, ce n'est pas un ange. Ce médiateur, ce n'est pas un saint, quel qu'il soit. Ce médiateur est et reste le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette image fausse amène les gens, mes amis, dans la plupart des cas, à verser dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans la hauteur. Regardez tous ces chefs religieux, toutes ces, hautes, ces autorités religieuses imbues d'elles-mêmes, dans leurs vêtements, dans leurs habits somptueux et pompeux. Quand ils marchent ou quand ils parlent, eh bien, même s'ils ne le disent pas, ils se considèrent comme étant des dieux. Voyez-vous? Voilà, ils parlent. Eh bien, certains prétendent même que leur parole est ex cathedra, irrévocable. Mais un homme, quel qu'il soit locataire, je ne sais de quelle cité, reste un homme conçu dans le péché et par conséquent, sa parole est faillible. Seule la parole de Dieu est infaillible et inhérente. Gloire au Seigneur. Pour avoir une vraie image de nous-mêmes, nous devons donc plonger nos regards dans le miroir de la parole de Dieu et non pas dans la fontaine de la religion. À ce propos, j'ai une histoire. C'est l'histoire du hibou. Vous connaissez tous cet oiseau vorace, nocturne, rapace, tout ce que vous voulez. Eh bien, on raconte l'histoire d'un jeune hibou qui, par une nuit de pleine lune, se regarda dans une fontaine. Et le voilà qui se voit dans cette fontaine, et tout d'un coup, il se trouve très très beau, très charmant, plus beau que le jour, lui la créature nocturne. Voyez là où la fontaine, l'image que la fontaine nous renvoie, nous induit en erreur et nous entraîne très loin. Omnubilé par cette image-là, fausse de lui-même, le voilà qui se met à se parler, à louer sa propre beauté. Oh, il s'est dit formidable. Quelle grâce que Vénus ait mis sa ceinture sur moi au jour de ma naissance. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une croyance dans la mythologie. Vous connaissez tous la déesse Vénus, cette déesse italique, considérée comme étant le dieu de la beauté et de l'amour. Hein. Alors il y a une croyance selon laquelle, eh bien, Vénus avait une ceinture. Et tous les hommes sur qui Vénus mettait cette ceinture à leur naissance, eh bien, c'était des hommes vers qui toutes les femmes se tournaient. Alors, se trouvant très beau, il s'est dit, mais Vénus doit certainement avoir mis sa ceinture sur moi. Oh, que je suis beau! Mais puisque toutes les femmes peuvent être attirées par ma beauté, mon charme, donc je ne pourrais pas me permettre d'épouser n'importe qui. Vous voyez? Moi, créature nocturne, certes, mais avec ma beauté, je peux viser haut. Alors il appela son ami la corneille. Vous savez, cet oiseau, c'est comme un corbeau, mais il est plus petit qu'un corbeau, mais il est tout noir. Hein, au plumage noir, il appelle son ami la corneille, il lui dit, mon ami, regarde-moi bien. Tu me vois comment je suis. Plus beau que moi, tu meurs. Je dois me marier. Eh bien, je t'envoie vers la fille du roi des airs. Et le roi des airs n'est autre que l'aigle. Lui, c'est un oiseau diurne. N'est-ce pas? Lui, il vole la journée. Et il vole encore très... Mais il se croit tellement beau, il dit, non, je ne peux pas me permettre d'épouser une chouette. Comment? Moi, je dois viser haut. Aller chercher une aiglonne. Mais son ami, la corneille, lui dit, mais... Qui connaissait la vérité. Il dit, mais réfléchis un peu, mon ami. C'est un mariage qui ne pourra jamais tenir. Il dit, mais pourquoi? Je suis très beau. Évidemment, cette fausse image l'a amené à s'aimer lui-même. Il est devenu narcissique. Il lui dit, mais pourquoi le mariage ne tiendrait pas? Il dit, mais réfléchis. Toi, tu es de la nuit et l'aigle est du jour. La nuit, tu sors, mais elle dort. Et quand le jour arrive, toi, tu dors, elle. Elle dit, non, moi, je veux celle-là. Évidemment, c'est une fausse image. Je suis mort. Corneille, la corneille pour le satisfaire, pour lui faire plaisir, le voilà qui part, trouver le roi des airs en disant, voilà, je viens de la part de mon ami. Évidemment, il était gêné. Il savait que cette proposition n'allait pas tenir. Mon ami, le hibou, le jeune hibou, là, eh bien, voudra absolument épouser votre fille. Il dit, ah bon, épousez ma fille. Ben, si le hibou veut être mon gendre, eh bien, il n'a qu'à venir me saluer en plein jour et dans les airs. Alors, vous voyez l'histoire d'ici. Et Corneille rentre, il dit à son ami, écoutez, le papa t'attend, mais seulement, tu dois aller le voir, le rencontrer dans les airs et en plein jour. Mais lui, présomptueux, obnubilé, comme je le disais, par ses fausses pensées, selon lesquelles il était le plus beau. D'ailleurs, il disait lui-même, quelle grâce d'appartenir à la race des oiseaux les plus parfaits. Vous avez déjà vu un hibou? Fui, fui. Je ne sais pas comment on dit en lingala. Comment on dit hibou en lingala? Esukulu. Il dit non, je vais partir. Il se prépare. Mais c'est un oiseau nocturne. Mais il prend le risque d'aller voir, rencontrer son futur beau-père le jour. Dès qu'il sort, le jour, il sort de son trou, il fait jour, hein. La première chose, eh bien, ses yeux sont éblouis. Parce que ses yeux ne sont pas faits pour contempler la lumière. La deuxième chose, après que ses yeux soient éblouis, eh bien, les rayons du soleil l'aveuglent. Et comme il est aveugle, il ne peut plus continuer à voler. Résultat, il tombe sur un rocher. Vous voyez comment la religion agit. Elle communique aux gens la vision de la fontaine. Elle fait croire aux gens qu'ils sont déjà sauvés. Il suffit simplement d'appartenir à la religion, et bien c'est fini. C'est ainsi qu'ils traitent nos églises de binzambinzambi. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Voilà. Donc pour eux, ben nous sommes dans la perdition. Pourquoi? Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils ont la vision de la fontaine. Ils se croient justifiés. Ils se croient avoir déjà les clés de leur appartement au ciel. Voyez? Ils se croient tout. Mais c'est une vision de la fontaine, ce dont on avait besoin. C'est de la lumière qui vient d'en haut. Le psalmiste pouvait dire, avec ta lumière, nous voyons là. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc cette vision-là de Dieu, et qui va nous permettre d'avoir une bonne vision de nous-mêmes, ne peut nous venir que de la lumière de la parole de Dieu. À ce moment-là, nous pourrions voir celui qui ne cesse de rayonner et qui brille plus que les étoiles. Alléluia. Et dans ce texte, Dieu-là se manifeste. Et nous allons voir quelle est l'image, comme je le disais, que nous pouvons recevoir de lui lorsque nous nous plaçons du point de vue des Égyptiens. Car du point de vue des Israélites, eh ben, c'est différent. Comme nous allons parler du guerrier redoutable, eh bien, nous allons nous placer du point de vue des Égyptiens et voir comment ces Égyptiens-là, conduits par le Pharaon, très puissant, sûr de lui-même, avec une armée la mieux entraînée de l'époque, comment eux, lorsqu'ils ont vu ce Dieu-là à l'œuvre, comment ont-ils perçu son image? Quelle révélation ont-ils reçu de lui? Alléluia. Eh bien, c'est ça, c'est sur ça que j'aimerais attirer votre attention. Comment se manifeste-t-il aux yeux de ce peuple qui court après son peuple? Comment se révèle-t-il à eux? Eh bien, en entrant dans ces textes, en regardant autour et alentour de ces passages, en lisant de manière tout à fait profonde, eh bien, nous voyons que Dieu se manifeste aux yeux des Égyptiens comme un guerrier redoutable. Mes amis, il est important que nous sachions qui est celui qui un jour est venu habiter en nous. Qui est celui qui un jour nous a rencontrés alors que nous poursuivions ou alors que nous étions sur une pente raide qui nous conduisait tout droit vers la ruine et la destruction éternelle? Qui est celui-là? Dans le contexte de guerre, dans le contexte de cette bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, eh bien, il est important que vous et moi, nous sachions que notre Dieu, non seulement il est saint, non seulement il est amour, non seulement il est juste, mais il est aussi un guerrier redoutable en face de nos adversaires, quels qu'ils soient. Quand le Pharaon a pris le risque de poursuivre Israël, il était sûr de le rattraper. Malgré tous les miracles que Dieu avait accomplis par Moïse, eh bien, l'orgueil a fini par aveugler le Pharaon et par le conduire sur le chemin de la destruction, car ils vont tous être écrasés. Le guerrier redoutable. Dans ce combat, Israël est poursuivi par les Égyptiens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu en intervenant, eh bien nous voyons que ce n'est pas un combat entre Israël et l'Égypte, mais plutôt entre les Égyptiens et le Dieu qui venait de délivrer Israël. Alléluia. Donc le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas notre combat, c'est son combat à lui. C'est pourquoi dans ce passage, Dieu demande à Moïse de calmer le peuple. Il demande à Moïse et le peuple de garder silence et de voir simplement comment ce Dieu-là allait intervenir en leur faveur. Mon frère et ma sœur, tu es peut-être dans cette situation. Tu es en face d'une mer infranchissable, humainement parlant. Tu as une pirogue et tu te dis, mais avec ma pirogue, je ne traverserai jamais cette mer. Tu es en face d'une montagne, tu ne sais quoi faire. Tu es dans une situation, dans une impasse, tu ne sais quoi faire. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au lieu de tourner en rond, au lieu de laisser la crainte envahir, la peur t'es paralysé, au lieu de baisser les bras, eh bien ce matin, tourne-toi vers le Dieu de Moïse. Celui-là est un véritable guerrier. Quand il entre dans un combat, eh bien l'issue est connue d'avance. Le peuple d'Israël n'avait pas d'expérience. Mais le Dieu qui les avait délivrés, lui, a plus que de l'expérience. Alléluia. Mes amis, il y a un lien particulier entre le peuple, entre Dieu et son peuple. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Dieu est devenu notre Père. Eh bien, ce Dieu-là se tient toujours à nos côtés. Quoi qu'il arrive, et quelle que soit la nature de l'obstacle devant nous, continuons à lui faire confiance. Alléluia. Que le vent souffle, que la tempête se lève, eh bien, lui reste le même. Et avec lui, nous irons de l'avant et nous écrasons nos adversaires. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur apparaît aux yeux des Égyptiens comme celui, mes amis, qui a contrôle sur tous les éléments de la nature. Sur l'eau, l'air, la terre, dans tout l'univers. Il est le créateur de toutes choses, mes amis. C'est un Dieu qui est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Voyez. Il y a des énigmes dans l'univers qui montrent une fois de plus que derrière tout cela, il y a une main invisible, mes amis, qui soutient toutes ses forces à l'œuvre dans l'univers, le Dieu de la Bible. Un guerrier redoutable, un guerrier terrible. Tous ses adversaires sont vaincus. Et souvent, nous perdons le combat. Vous savez pourquoi? Non pas parce que le diable, avec le temps, aurait peut-être acquis plus d'expérience et qu'il arriverait à nous écraser malgré la présence du Seigneur. Nous connaissons les défaites lorsque nous essayons d'affronter l'adversaire par nous-mêmes. Voyez. Au lieu de nous reposer, ce que le Seigneur demande à Israël, eh bien, c'est simplement de voir, de contempler la victoire que lui va leur accorder. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Laissez Dieu entrer dans le combat, voyez-vous. Continuez à les servir, continuez à venir à l'église. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent, chercheront à vous décourager, à vous dire « Ah oui, mais ça sert à quoi d'aller encore à la borne ?» Parce que depuis que tu y vas,
eh bien, tu ne fais que connaître des problèmes, les adversités s'abattent sur toi comme une pluie torrentielle, etc. Eh bien, dis-le, c'est pas un problème. Mon Dieu un jour se lèvera. Et quand son temps arrivera, nul ne pourra l'arrêter. Et quand il interviendra en ma faveur, eh bien, la victoire éclatera. S'il n'intervient pas aujourd'hui, il sait pourquoi. Il a des raisons que j'ignore. Mais une chose est sûre, c'est que tôt ou tard, je sortirai de ces tunnels de problèmes. Tôt ou tard, eh bien, cette nuit arrivera son terme. Quelle que soit sa durée, il faut bien que le rayon du soleil arrive et consume l'obscurité, quelle que soit son intensité. Alléluia. Le Dieu de victoire, le guerrier redoutable, le héros des nations, tant des titres que nous trouvons à travers l'Écriture sainte. Nous l'avons chanté, Yahvé Tsevaot, le Dieu des armées, mes amis, le Tout-Puissant. Il tient nos vies dans sa main, il tient tout l'univers dans sa main, mes amis. Voyez-vous, c'est un Dieu au-delà de toute compréhension. C'est pourquoi nous avons besoin de foi, la foi, pour pouvoir le connaître. Ce Dieu-là est terrible, il a un temps de patience, voyez-vous. Il a accompli des actes de puissance devant le Pharaon et son armée pour permettre à Pharaon de réaliser que ses idoles n'étaient que vanité, que ses idoles n'étaient rien du tout face au Dieu créateur. Mais lui n'a pas compris la leçon. Au contraire, il s'est endurci. Au contraire, il a voulu défier Dieu. Mes amis, comme l'a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Car ce Dieu-là est un Dieu vivant. Alléluia. C'est une chose terrible de tomber entre ces mains-là. Il est un feu dévorant. Pour nous, lorsqu'il allume son feu, c'est pour nous épurer, c'est pour nous sanctifier, c'est pour nous rendre conformes à lui. Mais face à nos adversaires, il devient le feu dévorant. Il écrase tout. Alléluia. Oh, il est formidable. Lorsqu'il est de nos côtés, et j'ai plein de témoignages là-dessus, eh bien, il fait de choses extraordinaires. Il nous donne la victoire et il nous fait avancer. Et quel que soit le combat, lorsque lui est avec nous, tout finit par se réaliser. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous, nous invoquons le nom du Seigneur, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent, mais nous, nous restons fermes et debout, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est en nous. C'est un Dieu formidable. Mes amis, il écrase tout. Lorsqu'il se met debout, certes il est amour, certes il est rempli de patience, mais attention, sa patience a des limites. Nous le verrons prochainement, comment le sacrilège est quelque chose de terrible. Comment on peut se mettre Dieu sur son dos et être écrasé par lui. Il a dit à Moïse, gardez silence et regardez comment je me glorifierai. Aux yeux de Pharaon, aux yeux de mon peuple, je me glorifierai. Il est dit, à deux reprises, je serai glorifié par le moyen du Pharaon. Verset 17. Verset 18, j'aurai été glorifié par... Effectivement, dans ce contexte de guerre, dans ce contexte, nous voyons la gloire de Dieu se manifester, oui ou non. Puisque les Égyptiens et leur chef, le Pharaon, ont tous été écrasés. Mais c'est quoi la gloire? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Je serai glorifié. À quoi pensons-nous? J'ai déjà eu à parler de ça, je me permets de revenir là-dessus. À quoi pensons-nous? Ou quelle est la première pensée qui traverse notre esprit lorsque nous parlons de gloire? Lorsque nous avons devant nous le concept de gloire, c'est quoi? Eh bien, dans la plupart des cas, nous qui avons été modelés par la pensée grecque, travers de la civilisation européenne, eh bien, dans la plupart des cas, quand nous parlons de gloire, souvent nous pensons à la brillance, n'est-ce pas ? À la splendeur, à une lumière qui jaillit, vous voyez, et qui aveugle tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas ici. On n'a pas vu de lumière briller. Oui, dans certaines occasions, le Seigneur s'est manifesté par une lumière extraordinaire. Rappelez-vous de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Alors qu'il partait pour accomplir une sale besogne qui consistait à détruire, à tuer tous les chrétiens, enfin tous ceux qui se réclamaient du Christ, eh bien Jésus lui apparaît. Il y a une lumière qui brille plus que le soleil et qui éblouit ses yeux et le voilà qui tombe. Oui, il y a des contextes où la lumière se manifeste, mais ici nous ne voyons pas de tout ça. Il n'y a rien qui attire l'œil de l'homme. Il n'y a pas d'apparence glorieuse, il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de splendeur majestueuse. Tout ça, pourquoi ? Eh bien, parce que dans la plupart des cas, nous sommes donc, comme je le disais, influencés par le sens grec de doxa. Je ne sais pas si c'est ici où j'avais présenté un enfant qui s'appelait doxa. Gloire, en grec. Et le sens de la doxa grecque, eh bien, est celui-là. C'est le sens de la brillance, splendeur, quelque chose qui brille, quelque chose qui illumine, qui éclaire, qui rayonne. Mais l'Ancien Testament n'a pas été écrit au départ en grec. C'est en hébreu et en araméen. La première traduction grecque est venue beaucoup plus tard. La fameuse traduction de la Septante, comme on l'appelle. Elle est venue beaucoup plus tard. Mais alors, qu'est-ce que Dieu a voulu dire ? Je vais exercer, je vais manifester ma gloire. Et Pharaon le verra. Je serai glorifié, etc. Eh bien, pour aller plus vite, la gloire dans ce concept hébraïque, la conception de cette notion de gloire hébraïque est différente de la doxa grecque. Le mot gloire, nous l'avons déjà eu l'occasion d'en parler. En hébreu, c'est kabod. On a eu à en parler, rappelez-vous, ikabod ou ebenezer, hein, puisque vous avez une mémoire d'éléphant. La kabod, c'est la gloire. Mais quel est le premier sens de la kabod ? Eh bien, ce n'est pas la brillance. Ce n'est pas la splendeur lumineuse. Le premier sens de la kabod, c'est le poids. C'est la lourdeur. C'est quelque chose qui pèse. Ah ! Et si nous traduisons littéralement, d'ailleurs, il y a une version française, la version de Chouraki, la Bible de Chouraki, qui l'a traduit, puisque lui-même étant d'origine juive et d'arrière-plan juif, il fut maire de Jérusalem il y a de nombreuses années, un grand philologue qui a traduit la Bible en français, mais c'est une traduction très littérale. Lui, eh bien, écoutez comment il traduit les versets 17 et 18. Il dit ceci, et c'est le Seigneur qui parle, « Je m'alourdis contre Pharaon, contre ses chars. Je m'alourdirai sur Pharaon, sur ses chars et sur ses cavaliers. » Donc, se glorifier dans le contexte vétérotestamentaire, eh bien, se montrer le poids que l'on a. Alléluia. Avoir la gloire, eh bien, c'est avoir du poids dans le contexte de l'Ancien Testament. Et glorieux à la gloire, celui qui pèse sur le plan social, celui qui pèse sur le plan financier, celui qui pèse sur le plan politique, etc. Donc la gloire est liée au poids que l'on a, le poids sur les événements. C'est ce qui détermine la gloire, alléluia. Et dans ce contexte de combat, nous voyons le poids de Dieu se manifester. Et lorsqu'il manifeste son poids, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive ? Le Pharaon est écrasé. Les Égyptiens sont écrasés. Lorsqu'il manifeste son poids sur la mer se fend en deux et laisse un passage à sec pour permettre à son peuple de passer. Mes amis, nous avons besoin de ce guerrier redoutable. Lorsqu'il est dans notre vie, alors nous avons du poids. Personne ne peut nous bouger tant que nous sommes dans sa volonté. Alléluia. Ne crains point, mon ami, ne tremble pas. Qu'il y ait changement ou pas changement, tant que Dieu est avec toi, sache que le poids lourd est avec toi. Les autres resteront des poids plumes et personne ne te bougera. Ton foyer bat de l'aile. Tu ne sais plus quoi faire. Le mari est de plus en plus volage, hélas. Et tu te dis, mais mon mariage, qu'est-ce que je veux faire? Tu pries, eh bien ma sœur, je t'encourage, continue à faire confiance. Attends-toi, fais que Dieu soit ta priorité. Fais tout afin que lui, le poids lourd, puisse demeurer dans ton foyer. Et tant qu'il demeurera dans ton foyer, tôt ou tard, ton mari reviendra à la raison. Alléluia. Quand Dieu est en nous, eh bien, mes amis, nous n'avons rien à craindre. C'est pourquoi il parle. Il dit à Israël, ben, calmez-vous, gardez silence, ce n'est pas votre combat. Regardez simplement ce que je vais faire. Et Dieu a manifesté sa gloire. Il a écrasé tous les adversaires. Non seulement il les a écrasés, mais il a permis à Israël d'avancer. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être confronté à une situation qui te dépasse. Tu ne sais plus quoi faire. Eh bien, la bonne nouvelle, comme je l'ai dit au début de mon message, c'est que Dieu est là. C'est un guerrier redoutable. Laisse ton combat à Dieu. Arrête, tu vas te fatiguer, tu n'iras pas plus loin. N'essaye pas de tout faire par toi-même. Tu as des ressources limitées. Voyez-vous? Tu n'es pas suffisamment vertébré pour faire face à toutes ces attaques de la part du diable. Fais confiance en lui, repose-toi en lui. Tourne-toi vers lui. Va derrière lui et laisse-le devant. Alléluia. À ce moment-là, eh bien, mon ami, tu seras assuré de la victoire. Puisque lorsque lui est là devant nous, eh bien, aucune flèche ne pourra le traverser. Tout ce qui arrivera échouera. Alors, fais confiance au Seigneur. Le guerrier redoutable est avec toi. Dans ce combat, eh bien, que tes yeux restent constamment fixés sur lui. Ne te laisse pas effrayer par le nombre d'adversaires. Ne te laisse pas effrayer par tout ce que l'ennemi essaye de faire ou est en train de faire. Tu t'es dit, je suis seul. Tu t'es dit, mais je vais faire. Le guerrier redoutable est là. Adonai, le Dieu des armées. Alors, si tel est ton cas, je vais te demander de lever ta main. Et ensemble, nous allons te recommander à Dieu. Nous allons demander à ce que Dieu se glorifie, qu'il exerce son poids dans ta vie, qu'il exerce son poids dans tes études, dans ton travail, dans ta responsabilité, dans ton foyer. Car lorsque Dieu est là, le rocher des âges, le rocher des siècles, alors la solution t'est assurée. Merci pour toutes ces mains qui s'élèvent. Alléluia. Veuillez vous lever. Vous qui avez levé les mains, et ensemble nous allons prier. Nous avons un guerrier redoutable, le héros des nations. Il est là ce matin, et il veut passer dans le rang pour vous soutenir. Il vous demande de garder silence. Il vous demande de faire confiance à lui seul, et de ne pas tourner des regards inquiets. Ne pas laisser la peur, la crainte vous paralyser. Lui, il est là. Levez vos mains, nous allons prier. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, ce que tu as été pour Israël dans l'ancienne alliance, tu l'es aussi pour nous dans la nouvelle alliance. Seigneur, nous pouvons voir combien le combat dans lequel ils étaient engagés, en réalité, n'était pas leur combat, mais ton combat à toi. Et ces bien-aimés qui se sont levés, Seigneur, réalise qu'ils ont besoin de ton secours. Ils ont besoin que tu interviennes en leur faveur. Ils ont besoin de sentir ton poids dans leur vie, de sentir ton poids dans leurs études, ton poids dans leur travail, ton poids dans leur mariage. Oh Dieu, s'il te plaît, passe dans les rangs et manifeste-toi chacun d'eux. Passe dans les rangs et manifeste ta gloire. Que ton poids se fasse sentir. Merci Jésus.
car tu es merveilleux. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, la victoire est assurée. Bénis chacun de nous et bénis tous ceux qui se sont levés. Qu'ils partent d'ici avec cette vision, avec cet aspect de ta personne, selon lequel tu restes et demeures celui qui combat pour ton peuple, mais aussi le guerrier redoutable vis-à-vis de nos adversaires, vis-à-vis de nos ennemis. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen.